Chapitre 63. L'absence d'un père renforce le souvenir de sa présence. Après Geneviève Magnan, au procès, une seule chose l'avait marquée, obsédée, la gueule de Fontanelle. Son costume, ses gestes, son attitude. De toutes les personnes qui étaient venues témoigner, il ne se souvenait que de lui. Alain Fontanelle avait été appelé en dernier par l'avocat des parties civiles, après le personnel encadrant, les pompiers, les experts, le cuisinier. Quand Fontanelle avait répondu d'une voix assurée aux questions du juge, Philippe Toussaint avait vu les yeux de Geneviève Magnan se baisser. Lorsqu'il l'avait aperçue dans les couloirs du tribunal le premier jour du procès, qu'il avait appris qu'elle était à Notre-Dame-des-Prés cette nuit-là, il a tout de suite pensé « C'est elle qui a foutu le feu dans la chambre, elle s'est vengée. » Pourtant, c'est quand Fontanelle avait parlé que Philippe Toussaint avait ressenti un profond malaise. Il s'était dit qu'il ne pouvait pas être le seul à ressentir ça, ce vertige face au mensonge. Il avait scruté les autres parents, regardé si Fontanelle leur faisait le même effet qu'à lui, mais rien. Les autres parents étaient morts, comme Violette, des morts. Comme la directrice dans le box des accusés, le regard vide. Elle avait écouté Fontanelle sans l'écouter. Une fois de plus, Philippe Toussaint s'était dit « Je suis le seul à être vivant ». Il avait culpabilisé. La mort de Léonine ne l'avait pas anéanti comme les autres, comme si dans leur couple, Violette avait tout pris pour elle, qu'elle n'avait pas partagé son chagrin. Mais il savait au fond de lui que c'était la colère qui l'avait soulevé de terre, l'avait maintenu au-dessus de la mêlée. Une colère sourde, lourde, violente, noire, dont il n'avait jamais parlé à personne parce que Françoise n'était plus là. La haine de ses parents, la haine de sa mère, la haine de ces gens qui n'avaient pas réagi quand le feu... Il n'avait pas été un bon père, un père absent, un père distant, un père semblant. Il était trop égoïste, trop tourné sur sa personne pour dispenser de l'amour. Il avait décidé qu'il ne s'intéresserait qu'à sa moto et aux femmes, toutes les femmes qui attendaient d'être consommées comme des fruits mûrs sur l'étal du marchand. Avec les années, il s'était tellement servi chez les voisines qu'un copain lui avait proposé l'adresse, un lieu où s'amuser à plusieurs, où les bonnes femmes ne tombaient pas amoureuses, ne prenaient pas la tête, ne faisaient pas la gueule et venaient chercher la même chose que les mecs. Le verdict était tombé. 2 ans de prison pour la directrice, dont un ferme. Et des indemnités, beaucoup d'indemnités, qu'il garderait pour lui. Une habitude que sa salope de mère lui avait donnée. « Garde tout pour toi, l'autre, elle est là pour te pomper tout ton argent. » Quand il était sorti du tribunal, ses parents l'attendaient à l'extérieur, plus raide que la justice qu'il venait de vivre. Il avait eu envie de se sauver, de prendre une porte dérobée pour ne pas affronter leur regard. Il ne les supportait plus du tout depuis la mort de Léonine. Sa mère, qui accusait Violette de tous les maux, n'avait pas pu s'en prendre à elle après le drame. Elle avait bien essayé, mais c'est elle, après tout, qui avait insisté pour que Léonine aille en vacances dans cet endroit de malheur. Il était allé déjeuner avec eux, le dos courbé. Il n'avait rien pu avaler, rien pu dire. Au dos de l'addition, il avait griffonné, avec le stylo de son père qui avait servi à faire le chèque, Edith Croquevieille, directrice, Swann Letellier, cuisinier, Geneviève Magnan, dame de service, Héloïse Petit et Lucie Lindon, monitrice, Alain Fontanelle, agent d'entretien. Il était rentré chez lui avec, comme seul bagage sur sa moto, le témoignage de Fontanelle. « Moi, je dormais à l'étage. J'ai été réveillée par les cris de Swann Letellier. Les femmes avaient déjà commencé à évacuer les autres enfants. La chambre du bas était en feu. Impossible d'entrer. Ça aurait pu être pire. » Violette n'avait pas réagi quand il lui avait annoncé le verdict. Elle avait dit « D'accord ». Et elle était sortie baisser la barrière. À ce moment-là, il avait repensé à Françoise, aux étés à Biot. Il y repensait souvent. Il retournait en vacances dans ses souvenirs quand le présent le déprimait trop. Puis il avait saisi les manettes de sa Nintendo et avait joué jusqu'à s'abrutir, gueuler, s'énerver quand Mario ratait un obstacle, pédalait dans la semoule. Quand il avait éteint la télé, Violette dormait depuis longtemps dans leur chambre. Il ne l'avait pas rejointe. Il avait enfourché sa moto pour rouler jusqu'à l'adresse, baiser des femmes qui attendaient la même chose que lui, du sexe triste, de la jouissance, un isoloir. Mais les mots de Fontanelle ne l'avaient pas lâché. « Moi, je dormais à l'étage, j'ai été réveillée par les cris de Swann Le Tellier. Les femmes avaient déjà commencé à évacuer les autres enfants. La chambre du bas était en feu, impossible d'entrer. Ça aurait pu être pire. » Qu'est-ce qui aurait pu être pire? La mort de Léonine avait fait tomber son nombril. Ce nombril que sa mère lui avait appris à regarder coûte que coûte. « Ne pense pas aux autres, pense à toi !» Parfois, il disait à Violette « On va refaire un petit. » Elle répondait « Oui » pour se débarrasser de lui. Se débarrasser de celui qu'il avait abandonné depuis des années. Celui qui la trompait. Non pas avec toutes les femmes qui l'entouraient, mais avec Françoise. La seule qu'il ait jamais aimée. Il n'avait pas épousé Violette pour qu'elle soit heureuse. Il l'avait épousée pour se libérer de sa mère qui le harcelait. Il avait ressenti un immense chagrin pour Violette quand elle avait perdu leur enfant. Il avait plus souffert du chagrin de sa femme que de la perte de son enfant. Il avait souffert de ne rien avoir pu faire pour elle, de ne pas avoir à s'en occuper, de son silence. De ne jamais réussir à lui parler d'autre chose que d'une marque de shampoing ou d'un programme télé. De ne pas avoir su dire à sa femme « Comment tu te sens ?» Pour cela aussi, il avait culpabilisé. Il n'avait même pas appris à souffrir. Au fond, il n'avait rien appris, ni à aimer, ni à travailler, ni à donner. Un bon à rien. Il avait craqué pour Violette la première fois qu'il l'avait vue derrière le bar. Il s'était senti attiré par tout le sucre dont elle semblait saupoudrée, comme une sucette colorée dans un camion de fête foraine. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait ressenti et ressentirait toujours pour Françoise, mais il avait eu envie de cette fille-là, de sa voix, sa peau, son sourire, son poids plume, son allure de garçonne, sa fragilité, sa façon de se donner sans retenue. C'est pour cela qu'il lui avait fait un enfant très vite. Il voulait la garder pour lui tout seul. Comme on s'offre une pâtisserie qu'on ne veut partager avec personne, qu'on dévore dans son coin, quitte à s'en mettre partout. Et sa mère l'avait pris la main dans le sac, lui, l'enfant roi, le pullover plein de gras, et un polichinelle dans le tiroir de la fille, en plus. En août 1996, soit 9 mois après le procès qui avait envoyé Edith Croquevieille en prison, Violette était partie 10 jours à Marseille, au cabanon de Célia. Celle-là, il ne pouvait pas l'encadrer, et il sentait que c'était réciproque. Lui, il avait dit que pendant ce temps, il irait faire de la moto avec des copains de Charleville, des copains d'avant. Des copains, il n'en avait plus, ni d'avant, ni de maintenant. Il était parti à Chalon-sur-Saône, seul. Alain Fontanelle travaillait dans un hôpital là-bas. L'hôpital Sainte-Thérèse, construit en 1979, où il s'occupait de l'entretien électrique, de la plomberie et de la rénovation de peinture avec 2 autres collègues depuis qu'il avait perdu son travail à Notre-Dame-des-Prés. Philippe Toussaint ignorait comment il allait s'y prendre pour l'aborder. Fallait-il lui parler gentiment ? Ou bien le tabasser jusqu'à ce qu'il crache le morceau. Fontanelle avait 20 ans de plus que lui. Pas difficile à neutraliser, lui faire une clé de bras. Il n'avait rien prévu, si ce n'est se retrouver seul à seul, avec lui. Poser les questions que personne ne lui avait posées au cours du procès. Philippe Toussaint était entré dans l'enceinte de l'hôpital. Avait demandé à parler à Alain Fontanelle à l'accueil. On lui avait répondu « Vous connaissez son numéro de chambre ? » Philippe Toussaint avait bredouillé. « Non, il travaille ici. » « C'est un infirmier, un interne ? » ?»« Non, il est à l'entretien. » Je vais me renseigner. » Tandis que l'hôtesse décrochait son téléphone, Philippe Toussaint avait vu Fontanelle pénétrer dans la cafétéria située au rez-de-chaussée, à environ 50 mètres de lui. Il portait un gris de travail. Il avait ressenti le même malaise qu'au tribunal. Il ne pouvait pas encaisser ce gars-là. Sans réfléchir, il avait marché très vite jusqu'à lui, jusqu'à arriver dans son dos. Fontanelle tenait un plateau à la main et faisait la queue au self-service. Philippe Toussaint était resté derrière lui, avait pris un plateau à son tour et commandait le plat du jour. Fontanelle s'était dirigé vers une fenêtre, seul. Philippe Toussaint l'avait rejoint et s'était assis face à lui, sans lui en demander la permission. « On se connaît ?»« On ne s'est jamais parlé, mais on se connaît. »«
Je peux vous aider ?»«
Sûrement. »
L'autre avait découpé sa viande comme si de rien n'était.
Je n'arrête pas de penser à vous.
D'habitude, je fais cet effet-là aux femmes.
Philippe Toussaint s'était violemment mordu la joue pour rester calme, ne pas s'emballer.
Voilà, je pense que vous n'avez pas tout dit au procès. Votre témoignage, il tourne en rond dans ma tête comme un fauve en cage.
Fontanelle n'avait marqué aucune forme de surprise. Il avait regardé Philippe Toussaint durant une minute. Sans doute pour se le rappeler au cours du procès, le resituer. Puis il avait saucé son assiette avec un gros morceau de pain. « Et vous croyez que je vais ajouter quelque chose comme ça, pour votre belle gueule ?»«
Ouais.
Et pourquoi je ferais ça ?»«
Parce que je pourrais être beaucoup moins gentil. »«
Vous pouvez me buter, j'en ai rien à carrer. Je vais même vous dire, ça m'arrangerait. J'aime pas mon boulot, j'aime pas ma femme et j'aime pas mes gosses. »
Philippe Toussaint avait serré les poings si fort que ses mains en étaient devenues blanches. « J'en ai rien à foutre de votre vie. Je veux savoir ce que vous avez vu cette nuit-là. Vous mentez comme vous respirez.
La Magnan. Vous la connaissez, la Magnan? C'est ma femme. »
Au procès, elle se pissait dessus à chaque fois qu'elle posait les yeux sur vous.
Au moment où Fontanelle avait prononcé son nom, il avait revu Geneviève Magnan dans les couloirs de l'école, les yeux chassieux, à lui courir après comme une chienne en chaleur. Il s'était revu la baisant toujours au même endroit, les pieds dans la boue, dans les phares de sa moto. Ça lui avait donné un haut-le-cœur. Fontanelle, l'odeur de bouffe et d'hôpital mélangé. Est-ce qu'elle avait foutu le feu à la chambre pour se venger? Cette question le torturait.
Qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu?
C'était un accident, rien de plus, rien de moins, un putain d'accident. Cherchez pas, vous trouverez rien de plus, je vous le dis.
Philippe Toussaint avait sauté par-dessus la table, l'avait chopé et l'avait cogné comme s'il était devenu fou. Au visage, dans le ventre, il tapait partout, au hasard. Il avait eu le sentiment de cogner sur un matelas abandonné au coin d'une rue. Il avait cogné, ignorant les cris autour de lui.
Fontanelle ne s'était pas défendu, il s'était laissé faire. Quelqu'un avait tiré Philippe par le bras pour l'empêcher de continuer, avait tenté de l'immobiliser, de le mettre à terre, mais il s'était débattu, une force surhumaine, et il s'était sauvé en courant. Les poings brûlants et en sang, tellement il avait frappé fort. Comme il s'y attendait, Fontanelle n'avait rien dit, pas porté plainte pour coups et blessures. Il avait déclaré ignorer l'identité de son agresseur.